Bonjour à tous, bienvenue sur la radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour
ce
nouvel épisode de
Vos
questions, nos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous explorons une piste intéressante pour prévenir la maladie et puis aussi la soulager. On a parlé alimentation, bien sûr, il y a aussi la gestion du stress. Focus aujourd'hui sur la pratique du yoga qui peut vraiment venir aider les patients atteints de la maladie. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Bernadette de Gasquet, professeure de yoga, reconnue et suivie par des médecins, des sages-femmes, des kinésithérapeutes et des coachs sportifs dans le monde entier. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Avec nous pour en parler également, Camille Yalène, docteur en neurosciences, chargée de recherche clinique au sein de l'établissement public de santé de Villévrard, praticienne en yoga-thérapie au sein de l'établissement public de santé de Villévrard et à la Maison des Femmes à l'hôpital de Saint-Denis. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Première question qui s'adresse à vous, Bernadette. Vous avez entre autres écrit un ouvrage sur le yoga senior publié aux éditions Robert Laffont. Alors déjà, que dire de cette pratique quand on est senior? Camille, quel est votre regard scientifique sur le yoga, sur la méditation en lien avec le cerveau?
Alors, mon regard scientifique, j'ai démarré en parallèle de mon doctorat et postdoctorat en neurosciences la pratique du yoga et j'ai pas pu m'empêcher de faire des ponts, des liens. Alors certains ne sont de l'ordre que de l'hypothèse pour le moment, mais très probablement vérifiables et d'autres sont déjà vérifiés, notamment en ce qui concerne la pratique de la méditation. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur le sujet. Alors, par quoi commencer? Je ne sais pas trop parce qu'il y a tellement d'outils dans le yoga. Il y a donc la méditation qui, évidemment, donc je disais, c'est la plus étudiée et qui permet d'améliorer les fonctions cognitives parce que on place son mental dans une posture qui est un peu particulière en méditation, qui est une posture où on prend du recul, on s'observe en train de penser et ça développe des capacités de métacognition. Et puis, on fait de la respiration qui permet de réguler les émotions parce qu'il y a un lien en fait entre le système nerveux qui nous fait respirer et le système nerveux qui régule tous nos organes, notamment qui décélère nos organes, qui associe un état de relaxation. Donc grâce à la respiration, on régule ses émotions. Et puis il y a tout ce qui est activité, pratique corporelle, posture, physique. Et là, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'effets de pratiquer ces exercices, ces postures, notamment sur la conscience du corps. Ça développe la conscience du corps. Et la conscience du corps sert à beaucoup, beaucoup de fonctions cognitives aussi. Donc, la cognition, on dit, il y a un concept en neurosciences qui n'est pas un concept, qui est quelque chose de vérifié. Là, on parle de cognition incarnée. Et donc, c'est-à-dire que toutes nos fonctions cognitives se basent sur des informations envoyées par notre corps, que ce soit notre système musculo-articulaire ou notre système viscéral, qui envoie en permanence des informations jusqu'au cortex, qui est le siège de nos fonctions cognitives, de nos prises de décision. Et donc, travailler le corps, ça permet d'améliorer nos fonctions cognitives, nos prises de décision, notre mémoire en l'occurrence, toutes nos fonctions cognitives. Donc, il y a encore plus d'outils dans le yoga, mais au moins ces trois-là, la méditation, la respiration et les pratiques corporelles qui améliorent in fine nos fonctions cognitives, nos émotions et notre bien-être.
Bernadette, quels sont les bienfaits concrets de la pratique?
C'est d'abord de maintenir effectivement une musculature. Parce que vous savez qu'un des grands problèmes, c'est dès lors qu'on marche plus, qu'on bouge plus, on perd des muscles et que, à partir du moment où il y a des chutes et des problèmes de fémur et autres, on sait très bien que c'est un peu très péjoratif pour la suite. Donc, maintenir une musculature, protéger les articulations qui sont souvent douloureuses pour diminuer les limites physiques pour pouvoir continuer à bouger, à vivre, à être autonome. Et puis le yoga, c'est pas que du physique, donc il y a une concentration, un travail de visualisation, un travail de coordination avec la respiration, avec beaucoup de respiration dans le yoga qui n'est pas toujours dans les autres pratiques. Et ça, c'est essentiel aussi pour le transit, pour faire circuler le sang, pour que ça bouge aussi à l'intérieur. Ça bouge à l'extérieur et ça bouge à l'intérieur. Et beaucoup de travail de visualisation, donc de concentration, d'apaisement aussi.
Alors, il y a aussi beaucoup de travail de concentration, d'apaisement. Ça aussi, c'est pas mal pour la maladie d'Alzheimer, où il y a souvent beaucoup de stress chez les patients.
Oui, exactement. Alors oui, j'ai parlé de se placer en observateur de ses propres pensées. Donc en fait, c'est utiliser son attention, son système attentionnel autrement. Généralement, l'attention est dirigée automatiquement vers ce qui est le plus saillant dans notre environnement. Et là, en yoga, on nous demande de porter notre attention soit sur le contenu de notre mental, soit sur nos sensations corporelles pendant les postures. Donc de vraiment d'utiliser son attention comme un outil pour ressentir à la fois ses pensées, ses émotions, son corps. Et ça, en effet, quelque part, donc, il y a plusieurs effets à cela, dont travailler son système attentionnel, travailler sa concentration, c'en est un. Et en plus, on la dirige sur soi, donc c'est se regarder autrement, et ça a tous les effets que j'avais dit précédemment. Donc oui, il y a un gros travail avec le processus attentionnel, qui est bénéfique pour tout le monde et exactement comme vous dites, pour les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer.
Bernadette de Gasquet, quel yoga pratiquer pour un public senior ?
Bon, je crois que ça dépend un peu aussi des affinités. Le yoga que je propose, en tout cas dans ce livre entre autres, c'est vraiment posture, respiration, placement, gestes simples, gestes quotidiens, c'est pas des grosses acrobaties. Mais il y a d'autres choses qu'on peut rajouter, comme la méditation, par exemple, dont je ne parle pas dans ce livre, mais qui sont bien connues pour être à la fois quelque chose qui détend et qui aussi recentre et qu'on peut faire effectivement très très longtemps. Mais ça dépend des affinités. Si les gens ne sont pas à l'aise avec ça, ben on peut juste faire des exercices, même avec une chaise, une table, dans son quotidien, comment je me penche, comment je me relève, en étant très conscient, très présent à ce qu'on fait. Et je pense que ça, ce côté ancré dans le maintenant, est très important, en particulier sur les maladies d'Alzheimer, qui sont un petit peu perdues dans le temps, en général. Donc je pense qu'on peut les recentrer un peu à cette occasion.
Et selon vous, Camille, quelle pratique envisager pour des patients Alzheimer, sachant qu'il y a quand même dans cette maladie une perte de repères, de temps ou encore d'équilibre ?
Le yoga, il y a plusieurs formes de yoga. Il y a certains yogas très dynamiques, voire même acrobatiques. Alors, ces formes de yoga, elles sont évidemment à exclure. Mais même pour n'importe qui débuterait du yoga, on ne débute pas par ces yogas-là, mais c'est les plus populaires, c'est ceux qu'on les plus médiatisés parce qu'ils sont jolis à voir. Donc c'est ceux qu'on connaît le plus, mais en réalité il y a des formes beaucoup plus douces de yoga où on travaille surtout la coordination entre la respiration et le mouvement. Et donc ça peut être des exercices tout simples. À l'inspiration, je lève mes bras et j'essaie de caler le mouvement de mes bras sur la durée de mon inspire, et à l'expiration je baisse les bras, donc on lève les bras par exemple par les côtés en dessinant un grand cercle autour de soi, et à l'expire on fait le chemin inverse et on cale son mouvement sur l'expiration. Rien que ça, c'est déjà un super exercice pour travailler cette concentration-là, cette attention-là, puisqu'il faut caler son mouvement sur la respiration, et ce n'est pas trop engageant d'un point de vue moteur et de l'équilibre, mais quand même, ça modifie un tout petit peu l'équilibre, le centre de gravité se déplace forcément un petit peu, donc ça fait travailler tout ça en douceur et c'est très accessible.
Bernadette, de nombreuses études scientifiques indiquent que pratiquer 3 mois de yoga et de méditation peut réduire le risque de déficience cognitive légère. Qu'est-ce qui, dans le yoga, apporte ce bienfait ?
Je pense que c'est justement cette union entre le physique et le mental, cette présence, cette sorte de visualisation du mouvement qu'on va faire. Donc le cerveau est tout le temps là, c'est ce qu'on appelle un peu la pleine conscience, mais dans le moindre détail, dans le moindre geste, hein. Et donc ça fait évidemment beaucoup de vasculariser le cerveau, parce que le mental est sollicité, le cerveau est présent quoi dans ce qu'on fait. Donc à ce titre-là, je pense que ça peut jouer effectivement pour retarder les effets de la maladie.
Et vous, Camille, qu'est-ce que cette étude vous inspire justement ?
Il y a plusieurs outils à l'intérieur du yoga qui vont toutes dans le même sens, qui est d'améliorer, de rendre plus efficaces nos fonctions cognitives. nos fonctions cognitives qui vont vraiment de la perception consciente, la mémoire, jusqu'à des fonctions plus, on appelle ça exécutives, de évaluation, prise de décision, élaboration de stratégie, etc. Donc, toutes ces fonctions-là cognitives qui fait qu'on fonctionne correctement dans notre environnement sont améliorées à la fois par les postures, par la respiration et par ce travail attentionnel. On dit que c'est une technique bottom-up, en anglais du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'on travaille le corps ou la respiration qui vont plus haut parce qu'il y a le système nerveux qui fait le lien entre tout ça, entre le corps et le mental. Le système nerveux qui rapporte que certaines informations en provenance du corps qui vont réguler les émotions, qui vont améliorer nos fonctions cognitives. C'est vraiment grâce à cette communication via le système nerveux entre toutes les parties du corps qui fait que quand on utilise tous ces outils psychocorporels qui constituent le yoga, on va améliorer forcément nos fonctions cognitives. On va être plus posé, plus vigilant, plus attentif, sans stress, parce qu'avec la respiration, on régule énormément la peur, l'angoisse, l'anxiété. Donc, on va avoir un autre regard quelque part. Le yoga nous invite à la force tranquille et nous rend force tranquille. Et ça, pour les fonctions cognitives, c'est idéal. Pour n'importe quelle fonction cognitive, elle sera plus performante, plus efficace si, quelque part, on est dans cette énergie de force tranquille.
Bernadette, il y a donc aussi la visualisation. En quoi ça consiste exactement et puis surtout, en quoi c'est bénéfique?
C'est d'imaginer, de voir, de faire dans sa tête avant de faire le mouvement. Imaginer le mouvement, de le voir. Donc, je lève le bras gauche, voilà, je vois comment je lève le bras. Donc, avant de faire le mouvement, on l'a déjà fait dans la tête, on a déjà un schéma corporel dans la tête. Et ça, ça recentre beaucoup, ça donne un ancrage, une continuité dans le geste. C'est pas juste des mouvements dans tous les sens, c'est vraiment être là, savoir pourquoi on fait ça et comment on le fait. Le comment est très important. Je lève le bras à gauche, à droite, devant, derrière, tendu, fléchi, voilà. Donc sur des exercices simples, on peut vraiment focaliser une attention au niveau cérébral. Travailler sur la mémoire et travailler sur la représentation des choses.
Et vous, Camille, qu'en pensez-vous?
Alors, la visualisation, normalement, en yoga, elle se porte surtout sur essayer de visualiser soi-même, hein, son corps dans les postures, etc. Et de temps en temps, il y a de la visualisation, c'est-à-dire des consignes visuelles qui aident à adopter la posture la plus aboutie possible. Donc, on va utiliser des métaphores pour inviter les pratiquants à se mettre dans la posture la plus aboutie. Par exemple, en yoga, on dit souvent qu'on a le buste fier, la tête humble. En méditation aussi, hein, ça c'est la posture pour allonger le dos, pour trouver cette posture. Donc, tout ce qui est visualisation, ça normalement, c'est là pour aider à trouver la direction là où on veut aller. Et pourquoi on adopte toutes ces postures, rien que par exemple, pour rebondir sur l'exemple que je donnais, la visualisation buste fier, tête humble, qui nous aide à prendre cette posture avec ce dos allongé, cette ouverture des épaules, cette ouverture de l'abdomen vers l'avant. In fine, ça va, si on l'adopte régulièrement, cette posture, ça va redonner confiance en soi. Parce que c'est l'inverse de quand on a peur ou pas confiance, on va se recroqueviller. Et là, d'un coup, on nous demande de s'ouvrir, d'ouvrir le dos, de s'allonger. Buste fier. Et donc là, les personnes disent, depuis que je me tiens plus droite, plus droit, j'ai plus confiance en moi. Et la confiance en soi, c'est évidemment un prérequis pour l'amélioration de certaines fonctions cognitives. On prend pas les mêmes décisions si on est confiant versus peur. Donc voilà. Donc en fait, c'est très très riche et ces exercices de visualisation, ça a des impacts jusqu'à nos fonctions cognitives, mais à la base, c'est une direction, une indication pour une posture, là, dans ce cas. Après, il y a d'autres exercices de visualisation plus pour une posture mentale, mais au final, tout mène aux fonctions cognitives et à leur amélioration.
Bernadette, le stress, de fait, diminue grâce au yoga, grâce à la méditation. C'est aussi, du coup, pour les seniors et les patients Alzheimer, un bienfait à ce niveau-là.
Voilà, c'est quelque chose qui apaise beaucoup quand on arrive à avoir une respiration lente, profonde, régulière. Ça apaise mental et ça bénit au niveau de ces tensions-là, au niveau du plexus, du diaphragme, ça bénit beaucoup. À l'extrême, quand chanter est quelque chose de qui enlève la peur, qui enlève le stress, hein, c'est pour ça qu'on fait chanter les scouts la nuit, et malheureusement on fait chanter les soldats qui vont sur le front, parce que chanter produit des endorphines et enlève la peur et le stress. Donc, sans aller jusqu'à chanter, mais je suis assez pour le chant, surtout chez les personnes âgées, parce que ça remet justement en contact avec les notions anciennes, et souvent ils n'ont pas du tout oublié les paroles des chansons anciennes, etc. C'est très socialisant aussi, je suis tout à fait pour le chant, mais si on ne chante pas, on peut au moins respirer avec un certain rythme, en se concentrant, c'est la concentration aussi sur la respiration qui est en elle-même anti-stress.
Alors, Bernadette de Gasquet, vous êtes médecin, vous avez travaillé avec de nombreux médecins également. Quel est le regard de la médecine sur la pratique du yoga ?
Alors, c'est en train de changer beaucoup, puisqu'effectivement, il y a pas mal d'études, parce que si la médecine s'oriente vers les neurosciences, et que finalement, le yoga, c'est de la neuroscience, mais je dirais que c'est, pour le moment, ils connaissent pas vraiment, ils savent pas vraiment ce que c'est. Je vais être un peu méchante avec mes confrères, mais souvent, c'est du genre, ça ne peut pas faire de mal, donc allez-y, pourquoi pas. Je ne peux pas dire qu'ils connaissent vraiment beaucoup. Et effectivement, c'est important de faire des études. Une petite étude que j'ai pu faire récemment, c'est sur le diabète pendant la grossesse. Mais bon, on fait un test de glycémie en début de cours, en fin de cours, ben, ça a changé, quoi. Donc, des choses comme ça qu'il faut développer pour trouver effectivement une efficacité immédiate, mais que les médecins ne connaissent pas trop encore. C'est un peu une secte, un truc bizarre. Donc c'est dommage, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et j'ai bon espoir qu'on ait une utilisation plus efficace, parce que mieux connu, le yoga.
Camille Allen, vous venez d'entendre ce que vient de dire Bernadette. Pour vous, le yoga, est-ce que c'est une neuroscience ?
Alors, c'est une bonne question. Les neurosciences permettent de comprendre comment le yoga agit sur notre système nerveux, les effets, l'impact du yoga. On peut pas dire que c'est une science. Donc, la science permet de comprendre le yoga. Le yoga, c'est surtout un outil. Ou alors, si c'est une science, ça appartient plutôt à une science qui n'en est plus une, puisque ça serait de la connaissance par sa propre expérience subjective. Et donc là, on arrive dans un débat entre où s'arrête la science, dès qu'il y a du subjectif, est-ce que c'est encore de la science? Mais en tout cas, pour la personne qui pratique, pratiquer le yoga, c'est une expérience subjective qui amène à une connaissance de soi. Donc voilà, là on touche à une question un peu délicate, où s'arrête la science classique telle qu'on l'a fait en neurosciences et l'expérience subjective telle qu'on la ressent et qu'on la pratique en yoga. Mais c'est une bonne question, ça reste ouvert.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnées.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, continuez de nous écouter, nous écrire. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions au podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio. www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.